Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 97, 97 pour nos amis français. Merci à vous de trouver votre voie. Je suis à Chauxfontaine sur un terril qui s'appelle Basse-Rancy Nord et l'invité c'est Nicolas Derue. Bienvenue à toi Nicolas.
Merci Vincent.
Tu as un certain nombre de casquettes plutôt liées au bien-être, à la relation et aussi à la sexualité. Ton activité, ça s'appelle La Voix du Plaisir. Tu as aussi créé avec ta compagne une communauté qui s'appelle la Love Community.
C'est exact. Je suis à Liège depuis une dizaine d'années avec mon activité La Voix du Plaisir. Et depuis 3 ans, avec ma compagne, on crée cette communauté qui s'appelle la Love Community seulement depuis un peu moins d'un an, mais qui est déjà en construction depuis au moins 3 ans.
Ouais, moi, on se rencontre pour la première fois, mais j'avais entendu parler de ton activité et surtout Dorian Minguet, petit coucou à lui, qui est passé il y a quelques épisodes de ça, m'a parlé de toi et m'a dit qu'il faut absolument que tu contactes Nicolas. C'est donc une des raisons qui fait qu'on est en face à face dans ce beau coin de nature. Aujourd'hui, toi et moi.
Dorian est venu à un de mes ateliers. Il a eu des étoiles plein les yeux. Et puis il m'a dit, Nico, il faut qu'il y ait plus de monde qui découvre ce que tu proposes au monde. Contacte Vincent. Il va pouvoir t'aider à semer des graines dans le vent.
Nous sommes dans un endroit où, comme vous l'entendez, il y a des petits oiseaux, des ambulances, un train. C'est un peu le concept de cette chaîne de podcast. D'être le plus naturel possible dans un lieu de nature que l'invité, que les invités choisissent. Toi, comme tu le disais, t'es en région liégeoise depuis une petite dizaine d'années, ta compagne qui s'appelle Stéphie, donc vous avez créé cette activité commune depuis un an et demi. Avant la région liégeoise, t'étais où? Si tu peux faire un résumé, parce qu'apparemment t'as beaucoup voyagé. T'étais où en Belgique quand t'étais en Belgique, puis après où est-ce que t'as été lors de ton périple, lors de tes voyages?
Je vais remonter à mon enfance où j'ai grandi à Bruxelles avec mes parents dans une communauté. J'ai 42 ans, 41 ans que mes parents ont créé une communauté à Bruxelles avec d'autres familles. J'ai grandi pendant toute mon enfance à Bruxelles, ma jeune enfance à Bruxelles, puis après à Braine-l'Alleud pendant une dizaine d'années. J'ai été faire mes études à Bruxelles de cinéma et avant ça, j'ai été passer un an en Allemagne. Je suis à moitié allemand, ma mère est allemande. J'ai voulu aller me connecter à mes racines maternelles. J'ai passé du temps à Stuttgart où j'ai appris l'allemand. Après, je suis revenu à Bruxelles faire mes études de cinéma. Et après ça, j'avais juste une envie, c'était partir en voyage. Mes profs de cinéma m'ont dit « Non, Nico, tu dois aller en festival avec ton film de fin d'études. » Je suis resté encore un peu en Belgique, j'ai fait des festivals. Et puis à un moment, c'était juste trop pour moi. J'avais trop envie de voyager, donc je suis parti en Inde. Où là, j'ai connecté avec le Tao et avec le Tantra, qui sont en fait aujourd'hui deux de mes outils principaux dans lesquels j'emmène les personnes dans mon travail.
Dans les mots-clés, il y a la connexion, le massage, le tantrisme, les voyages. Il y a d'autres mots-clés qui te définissent ou qui définissent ton activité?
Aujourd'hui, avec la Love Community, on peut dire qu'un grand mot-clé, c'est les câlins. Câlins platoniques, avec vraiment tout un axe où on aborde le fait de pouvoir être en relation sans avoir un but d'aller quelque part, ce qui est très rassurant pour les personnes qui viennent dans nos espaces. Ils ne viennent pas là pour faire une rencontre amoureuse ou pour devoir séduire, ils viennent là juste pour être en connexion, partager de la tendresse et de la douceur. Et puis après, on a aussi tout un axe où on travaille sur la sensualité, sur les différentes qualités de la sensualité. Donc la sensualité, je pense que c'est un bon mot-clé qui me représente. Et aussi le consentement, un pilier de notre travail. Dans tous les ateliers qu'on propose, dans toutes les soirées qu'on propose, on travaille le consentement avec les participants pour qu'ils puissent vraiment s'approprier les interactions qu'ils ont envie d'avoir avec les autres, de savoir exprimer leurs besoins, leurs limites, leurs désirs et se mettre d'accord, trouver un accord avec les autres participants sur ce qu'ils ont envie de partager ou pas. Le fait de mettre cet axe-là dans nos activités permet de créer un espace le plus protégé possible afin que les personnes qui viennent puissent s'épanouir.
Il y a la partie de ton activité qui s'appelle la voie du plaisir, qui a certaines spécificités, et après la Love Community avec ta compagne, qui a deux spécificités, les tiennes, celle de ta compagne, et celle de l'activité que vous avez créée en commun.
Alors la voie du plaisir, c'est une activité que j'ai créée il y a une dizaine d'années, vraiment basée sur le tantra, le massage tantrique, des stages de tantra et de tao, dans les philosophies du tantra et du tao, où j'amène les personnes à se connecter à leur sexualité, à leur énergie sexuelle, à la faire circuler dans leur corps, à pouvoir gérer tous les problématiques que l'on peut rencontrer dans la sexualité, comme des problèmes de libido, d'érection, d'éjaculation précoce, des problèmes relationnels à travers la sexualité. Avec la Voix du Plaisir, j'accompagne les personnes à travers du coaching, à travers du massage, à travers des stages. La Love Community, c'est un projet qu'on a envie de porter dans la société pour réunir les personnes. On a envie que les personnes aient un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité, pour rencontrer d'autres personnes, où ils peuvent partager des espaces de douceur, de tendresse, de sensualité aussi. C'est plus l'idée de pouvoir réunir et d'avoir un espace où les gens peuvent grandir en recevant du soutien, une écoute et notre présence. Les deux activités se rejoignent, ils se passent dans le même centre, ici à Liège. On bouge parfois aussi dans d'autres endroits, mais principalement c'est ici. La Love Community, il y a aussi cette énergie que Stéphie amène avec son propre parcours. C'est une artiste, c'est une graphiste. Elle a aussi son propre projet personnel qui s'appelle Intusia. Elle amène les hommes et les femmes à se connecter à leur temple, qui est leur corps. C'est une autre approche et ensemble, on forme la Love Community.
Toi, tu as écrit un livre et c'est elle qui a fait les illustrations.
Ouais. J'ai écrit un livre, un guide du massage intime féminin durant le Covid. Une première version que j'avais fait moi-même. Quand j'ai rencontré Stéphie à 3 ans et demi, elle m'a dit « Oh Nico, c'est super ce que tu as fait, mais ça pourrait encore être mieux si je mettais mes mains dedans. » Elle a dessiné, elle a imprimé, elle a créé. Et ensemble, on a revisité ce guide du massage pour avoir une version qui vient de sortir, qui est magnifique, avec des illustrations vraiment très belles. Et des belles photos aussi, qu'on a fait beaucoup de shooting ensemble. La photo est vraiment un support qui nous parle beaucoup et on va dans d'autres pays pour aller faire des photos dans des magnifiques lieux qui nous inspirent.
La connexion quand tu l'as rencontrée, artistique, amoureuse et entrepreneuriale, vu que vous avez créé un concept qui vous parle à tous les deux. Tu expliquais, tu as vécu enfant à Bruxelles, puis à Braine-l'Alleud, puis tu décides de faire des études de cinéma, puis tu commences à voyager en Inde. Qu'est-ce qui se passe entre l'Inde et l'entrepreneuriat, la région liégeoise ici, bientôt 10 ans.
Quand je suis parti en Inde, ça m'a vraiment connecté au fait de « Ah, c'est ça que j'ai besoin, de prendre du temps pour moi, de découvrir le monde ». Déjà avec mes parents, ils m'avaient fait beaucoup voyager, donc j'avais cette envie, cette habitude, cette aisance de pouvoir être en voyage de façon assez rustique avec le sac à dos. Et mon père me faisait dormir sur le quai de la gare ou dans un village où il n'y a pas de guest house, où il toquait chez les habitants pour demander où on pouvait mettre notre moustiquaire. Vraiment une habitude d'être avec la population. Quand je suis revenu en Europe, j'ai senti que j'avais pas tellement envie de rester à Bruxelles. Je suis parti visiter un ami en Espagne, ce qui a découlé que je suis resté là-bas pendant 4 ou 5 ans entre la Belgique et l'Espagne, à vivre dans un village qui avait été recolonisé par les aventuriers de la vie, dans une yourte avec mon potager. J'ai vécu vraiment sur le côté de la société pendant plusieurs années. Puis après, j'ai été vivre dans les Pyrénées françaises. Pareil, dans des communautés, j'ai fait beaucoup de projets communautaires et d'habitat groupé. Puis à un moment, je me suis rendu compte que j'avais fort exploré l'aspect relationnel et communautaire et la nature et le fait de vivre en dehors de la société de tous les jours. Et je me suis dit, mais maintenant, j'ai envie de voir aussi comment est-ce que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice, œuvrer à une société qui est plus égalitaire, plus lumineuse, plus en lien. J'ai décidé de rentrer en Belgique. Sur le chemin, j'ai eu 2 enfants, j'ai été marié pendant 15 ans. C'était aussi tout ça, tout ce chemin-là, je l'ai fait avec mon ex-femme. Quand je suis rentré en Belgique avec mon ex-femme, qui était toujours ma femme à cette époque-là, on est arrivé à Liège. Et là, j'ai travaillé dans un centre culturel comme graphiste parce que j'avais besoin d'un boulot. En rentrant dans la société, il faut plus d'argent que de vivre en yurte dans la montagne. J'ai dû trouver un petit boulot, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc de travailler pour quelqu'un. Que j'ai besoin d'être plus indépendant.
Que tu n'étais pas fait pour le train-train quotidien. Il y a un train qui vient de passer dans le paysage sonore derrière nous. C'est pour ça que je rebondis. Et à un moment donné, donc, tu satures en disant « Bon, j'ai testé, mais ce n'est pas fait pour moi. » Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a des chamboulements qui se passent dans ta vie, que tu arrives vers l'entrepreneuriat.
Je pense que j'ai déjà commencé l'entrepreneuriat plus tôt, étant donné que je vivais dans ma yourte, dans les montagnes. J'essayais de faire rentrer de l'argent en créant du travail par moi-même, en fabriquant des bijoux avec ma compagne. J'allais donner des coups de main à gauche et à droite. J'ai commencé à créer des sites web à ce moment-là. Je me suis mis comme freelance parce que ça me permettait de voyager tout en ayant mon ordinateur avec moi et pouvoir faire des sites web.
Un parcours entrepreneurial déjà depuis 15-20 ans, si on calcule.
Alors au minimum depuis 15 ans, parce que j'ai commencé à créer des sites web quand mon fils est né et que c'est à ce moment-là que j'ai fait « Oh oh, il faut que je génère un peu plus d'argent ». Après, quand je suis entré en Belgique, j'ai commencé à travailler pour un centre culturel. J'avais toujours mon portefeuille client de sites web à côté. Et je l'ai toujours aujourd'hui. J'ai toujours une petite partie de mon activité qui est fabriquer des sites web pour des gens qui ont des chouettes projets, ça a du sens pour moi, pour des petites entreprises. Quelque chose que je garde, qui est précieux, qui m'a beaucoup aidé pendant le Covid, parce qu'évidemment avec les massages c'était un peu limité. Mais c'est vraiment pas là que je mets le gros de mon énergie. Le gros de mon énergie aujourd'hui c'est dans l'accompagnement des personnes. Quand j'ai décidé d'arrêter de travailler au centre culturel, j'ai mis un boost sur mon activité de site web pour subvenir aux besoins de ma famille, mais j'ai surtout développé mon activité de massage, de coach, d'accompagnant au niveau de la sexualité, et peut-être aussi une démarche plus spirituelle.
Directement un entrepreneuriat où tu as pris ton numéro de TVA ou tu es passé par des structures qui t'ont accompagné pour mettre en place des étapes?
J'ai commencé en travaillant avec la Smart BE, qui est une coopérative. Ça, j'ai fait pendant des années. À un moment, je me suis mis en complémentaire à côté de mon boulot en tant que graphiste dans le centre culturel. Et puis, à un moment, je me suis mis comme indépendant à titre principal. Et c'était le grand saut parce que ça reste toujours un gros challenge pour moi de réussir à joindre les deux bouts au niveau financier. Surtout que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai acheté une maison ici à Liège dans laquelle j'ai créé mon centre. Et il n'y a rien à faire. Payer un lieu professionnel en plus d'un lieu d'habitation, c'est des gros budgets. Et ça me demande de jamais lâcher, que je continue à avancer, avoir une vision de l'endroit où j'ai envie d'aller, c'est quoi les prochains événements, mettre de l'énergie là-dedans.
Tu es plus dans une dynamique d'action avec un peu de recul pour réfléchir aux étapes. T'es du genre à te structurer, à t'organiser, ou t'es plutôt du genre à improviser? Ou t'es un peu des deux en fonction des circonstances?
Je crois que je suis un peu des deux. Quelqu'un qui adore improviser. Je fais du violon depuis que j'ai 7-8 ans. Lire les notes, c'était pas trop mon truc. Je sais lire des notes de violon, je sais faire des partitions, je sais lire à vue. Mais mon truc, c'est plutôt improviser. J'entends les chants des oiseaux, et je prends mon violon, et je pars dans une mélodie. Et ben c'est la même chose avec mon travail. Il y a quelque chose qui m'appelle, je crée quelque chose, et puis je vais avoir une nouvelle idée. Je vais tester, je vais sonder, je vais voir, ah, il y a l'intérêt pour ce que je propose. C'est quoi le besoin des personnes, en fait? Sur quoi ils sont en train de travailler, dans les gens qui sont dans la communauté? Et puis je propose quelque chose de concret. Et je regarde si les personnes disent, oui, ok, on vient, alors c'est que c'est le bon truc. Je vais laisser un espace d'improvisation et un espace de construction, parce que Stéphie fonctionne très différemment que moi. Elle a besoin de poser les choses, d'écrire les textes à l'avance, de structurer. Elle va créer, mais plus en prenant du temps pour le faire, alors que moi, je vais plus être au dernier moment et respirer et voir ce qui est juste et aligné.
Ah, tu parlais tout à l'heure que tu fais énormément de choses avec elle. Il y a beaucoup donc de co-création. Est-ce que tu as des routines à un certain moment donné pour commencer, pour finir ta journée, qui peuvent inspirer les personnes qui nous écoutent?
Disons qu'en tant qu'indépendant, en étant fort dans la création d'événements et dans l'accompagnement individuel, mon planning dépend vachement soit des demandes que je reçois, soit des événements que je place dans mon agenda. Je n'ai pas 2 jours les mêmes, ce qui fait que si je n'ai pas de rendez-vous le matin, j'aime bien prendre mon temps, prendre du temps de connexion aussi avec Stéphie pour être en lien, pour nourrir notre couple. Peut-être ma routine, c'est surtout prendre du temps d'abord pour prendre soin de moi et prendre soin de ma relation. Et puis après, mettre le moteur focus sur le travail dans la matinée ou aller dans des rendez-vous de clients. L'après-midi, ça peut être aussi un rendez-vous pour un massage ou aller travailler parfois à l'extérieur. On aime bien aller se poser avec nos ordinateurs quelque part, dans un lieu, dans un bar, dans la nature, un endroit qui nous plaît pour aller travailler en autonomie avec la camionnette, avec une batterie, un endroit paisible pour se mettre au travail. Puis le soir, si on a prévu un événement, ben on installe le lieu et on accueille les personnes. Et c'est souvent parti jusqu'à 10h30 du soir, on est avec les personnes. Notre journée se clôture comme ça, mais on ne fait pas ça tous les jours. Il y a plein de soirées où on passe notre soirée à deux, ou chacun de notre côté, ou avec les enfants.
Tu disais aussi, tu as certainement appris beaucoup de choses après la séparation justement avec ta femme, maman de tes enfants.
J'ai fait un très gros chemin avec mon ex-femme, au niveau tantra, au niveau couple, au niveau développement personnel. On est très proches en fait. C'est juste qu'à un moment, nos besoins, nos désirs ne se rencontraient plus et donc on a décidé de continuer nos chemins dans 2 directions différentes. Mais en fait, on est toujours amis, on se soutient, on fait du coparentage ensemble, on prend vraiment soin de notre relation et celle de nos enfants. On a aussi expérimenté ensemble le fait d'ouvrir le couple. Et ouvrir le couple dans une relation de plus de 15 ans, c'est quelque chose. Les défis que ça représente. Avec ça, j'ai appris énormément sur moi et sur les relations. Mon projet professionnel existait déjà quand j'étais encore marié. Et quand j'ai rencontré Stéphie, je ne m'attendais pas du tout à retomber amoureux et avoir envie de fusionner nos vies comme on l'a fait maintenant. Mais en fait, c'est juste quelque chose de naturel. Et nos 2 expériences, on les met au service de notre activité professionnelle. J'accompagne plein de personnes qui sont en ouverture de couple ou qui se posent des questions sur les relations, sur le polyamour, sur les relations non exclusives. Et j'accompagne aussi plein de personnes qui sont en couple exclusif parce qu'en fait, pour moi, tous les ingrédients qu'on rencontre dans une relation exclusive ou dans une relation polyamoureuse, c'est les mêmes. C'est juste qu'une relation polyamoureuse peut être un accélérateur challenge. Il faut prendre soin, dans tous les cas, de la relation ou des relations si on a envie qu'elles perdurent, qu'elles soient nourries, qu'elles soient profondes. C'est les mêmes ingrédients pour moi.
Il y a d'autres sources d'inspiration, d'autres conseils que tu auras envie de donner. Tu as des mentors, des éléments de développement personnel qui ont été des déclics ou des étapes importantes dans ton parcours?
Dans les voyages que j'ai faits, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai suivi pendant des années Saïma, qui est une guide spirituelle indienne, avec qui j'ai fait tout un travail d'ouverture du cœur, aussi au niveau de la relation du couple. J'ai été la suivre en Inde, à la Kumbh Mela, qui est un des plus gros événements spirituels de la planète, où il y a plus de 100 millions de personnes qui se retrouvent pendant 30 jours. C'est juste énorme. Saïma, c'est vraiment une belle personne qui m'a fait beaucoup grandir. Un autre élément qui m'a aussi permis d'explorer qui je suis dans cette société, c'est le Mankind Project, MKP, où j'ai aussi connecté avec Dorian.
Et aussi quelqu'un d'autre qu'on connaît, qu'on a en commun, Marc Legrain, avec qui on a fait un épisode avec sa compagne et lui dans leur beau lieu qu'ils ont toujours près de Chimay, la Carrotterie. Des groupes qui sont plus que des groupes de parole, c'est des groupes de connexion entre hommes, nourrir les parcours, échanger des points de vue.
Le MKP, c'est une aventure initiatique. Pendant 3 jours, on invite des personnes qui s'identifient comme hommes, des personnes non binaires aussi, venir à la rencontre d'eux-mêmes et de vivre cette aventure initiatique pour déconstruire ce qui les rattache à leur quotidien, pour pouvoir se réapproprier ce qui est important pour eux dans leur vie et les empuissancer. C'est magnifique comme aventure. C'est quelque chose que j'ai fait en 2016 et auquel maintenant je staff. Je viens aussi en tant qu'accompagnateur parce que toute personne qui vient faire son initiation, si elle a envie, elle peut venir participer après pour accompagner les prochains. C'est vraiment un très beau passage. Après, dans le tantra, j'ai beaucoup grandi dans l'école de Michaela Riedel. C'est en Allemagne. L'avantage de parler allemand, c'est de pouvoir aussi avoir accès toutes les propositions germanophones qui sont fort différentes que celles des Français ou des Belges. Michaela Riedel, qui est une enseignante de plus de 60 ans, qui propose une très belle approche du tantra, qui a beaucoup nourri ma pratique.
L'Inde, l'Allemagne, l'Espagne, il y a eu d'autres lieux de voyage qui t'ont fait passer des étapes avec le recul?
Mes parents m'ont emmené tous les 2 ans faire un voyage pendant l'été avec le sac à dos, de façon très simple. Ils économisaient toute l'année pour payer les billets d'avion et puis après sur place, on vivait avec pas grand-chose. Et on a fait la Thaïlande, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, on a fait beaucoup l'Asie. Tous ces voyages, ça m'a permis de voir vraiment le contraste dans lequel on vivait, dans lequel je vivais ici en Belgique, et le contraste avec les autres enfants, parce que j'ai fait ça avant mes 18 ans. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à voyager avec eux. Waouh! Je suis vraiment privilégié en fait d'avoir à manger tous les jours, d'avoir des habits, de pouvoir voyager. Aussi tout l'aspect de la spiritualité, on a été dans beaucoup de temples, dans des communautés, dans ces pays-là. Aussi toute cette connexion qui est venue nourrir ma relation au monde et à la spiritualité. Et pour moi le mot spiritualité, c'est ce qui me relie à ce qui est plus grand que moi. C'est pas une croyance d'un dieu, c'est pas un système religieux, c'est plutôt une question de « Oh, pourquoi je suis là ? Comment ça se fait que je suis en vie ? C'est quoi l'amour ? Comment ça se fait qu'il y a la vie sur Terre ou dans l'univers ?» C'est plus cette dimension-là.
J'avais été marqué en écoutant un épisode de podcast qui était passé dans un très chouette podcast avant celui-ci d'Olivier Majeron qui s'appelle le Love Elf Center, Entre nous, il n'y a pas le E, c'est Entre apostrophe nous, où tu as plus parlé de tantrisme, de sexualité. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur Nicolas, peut-être que vous pouvez aussi écouter cet épisode-là. Ça va être l'occasion de donner les coordonnées, comment les gens peuvent te contacter. Site internet, réseaux sociaux.
Mon site internet, c'est lavoieduplaisir.com. Et la voie, c'est V-O-I-E. Là-dessus, il y a mon agenda, les liens pour s'inscrire, concernant les massages tantriques aussi, quelle est mon approche, la façon dont je travaille, le cadre que je pose pour que les gens puissent explorer en sécurité. Mon Facebook, c'est aussi, vous mettez La Voix du Plaisir ou Nicolas Derue sur Facebook, vous allez pouvoir me trouver. Puis je suis aussi un peu sur Instagram. C'est pas mon média le plus utilisé. Facebook et mon site web, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez me retrouver.
T'es plus comme moi dans une connexion par le regard sur de vrais événements que par les outils technologiques.
Le mieux, en fait, c'est venir à un événement. On pourra prendre un moment ensemble et juste déjà venir par exemple à une soirée câlin. Si vous n'osez pas venir à des événements un peu plus avancés, une soirée câlin, c'est super sécurisé, il faut rien faire de particulier. En fait, dans tous les événements qu'on propose, c'est que des invitations et à tout moment, vous pouvez passer, vous pouvez prendre du temps avec vous-même. On a un espace de méditation dans notre espace, donc c'est super respectueux du rythme de chacun.
Les gens peuvent commencer par se faire un câlin à eux-mêmes avant de décider de faire un câlin à une autre personne, à 2-3 autres. Faire parfois des énormes câlins collectifs, ça s'adresse à des groupes, puisque combien de personnes, en fait, ces énormes câlins collectifs?
Dans les soirées câlins, on n'a pas l'objectif de faire des câlins spécialement en groupe. mais c'est le bienvenu et on propose une structure qui permet de faire des câlins en groupe. C'est vrai qu'on peut se faire un câlin soi-même, on peut faire un câlin avec deux ou trois personnes. Et puis surtout, nous on propose un moment, une structure où on peut être connecté à 20, c'est le maximum de personnes qu'on met dans notre centre. On imagine tout à fait de pouvoir proposer cette même structure à 50 ou 100 personnes. C'est juste qu'on n'a pas encore créé un événement pour le faire. La structure est inclusive. On est couché sur le dos. On demande l'autorisation aux personnes. Est-ce que je peux me coucher près de toi? Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule ou te tenir la main? Les personnes ne se connaissent pas entre eux, mais on crée tous des petits jeux pour créer du lien avant que chacun puisse se détendre. Et en fait, le but, c'est pas que faire du câlin. Le but, c'est aussi de se détendre en profondeur. Un espace super paisible. Ouh, chacun se pose et il y a le système nerveux qui se relaxe. On fait de la musique en live la plupart du temps. C'est juste une expérience magique.
Beaucoup de gens voient sur des événements des énormes panneaux en anglais « free hug ». Ça appartient à chacun d'y aller à son rythme, en fonction de son vécu. Se faire confiance et de faire confiance au départ à des personnes qui sont inconnues quand tu viens la première fois.
Lors d'un atelier câlin, on va d'abord passer du temps à parler du consentement et on va faire des jeux sur comment est-ce que j'ai envie d'être touché, quel type de toucher, quelle énergie dans le toucher, comment j'ai pas envie d'être touché. Poser ces choses-là et de faire des exercices là-dessus, ça permet d'empuissancer les personnes qui viennent pour qu'ils se rendent compte « Oh, en fait, je suis capable de poser mes limites dans un cadre comme ceci. » Et ça les aide, en fait, pour le monde extérieur, à avoir plus facile à poser leurs limites. On part sur une base où les personnes peuvent commencer à se relier entre eux tout en respectant leurs besoins et leurs limites et en allant en douceur. On a plein de gens qui viennent, qui ont déjà des traumas et qui viennent dans nos espaces parce qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent écoutés, se sentent entendus et ils reçoivent les outils nécessaires pour pouvoir se réapproprier leur corps. C'est leur corps et c'est eux qui décident avec qui ils ont envie de le partager et la manière dont ils ont envie de le partager.
Quand tu disais « empuissancer », c'est les Québécois qui ont transformé un mot anglais. L'empowerment, il me semble. J'avais fait un épisode avec un couple qui partage un lieu où les gens peuvent faire des activités artistiques, peuvent venir se connecter à d'autres. Ça s'appelle Empower Yourself. Petit coucou à Mireille.
Et Cédric.
Que tu connais aussi, tiens donc.
Qui suivent aussi Saima, la guide spirituelle indienne.
Le monde est petit, la Belgique encore plus, et l'entrepreneuriat en Belgique francophone. Alors là...
Et je fais leur site web, c'est moi leur webmaster. Et ce matin, avant de venir ici, je travaillais sur leur site. C'est magique.
Mon concept, c'est de proposer des pistes, des cheminements, des réflexions, d'évoquer le parcours, les chemins que les personnes ont pris pour trouver ou se diriger vers leur voie, VOIE, comme la voie du plaisir dans ton activité, VOX, parce qu'en effet, c'est un outil, le podcast, où tu utilises ta voix et tu fais passer plein d'émotions. Et les gens après se disent « Ah, dans sa voix, j'ai perçu telle et telle chose qui me correspondent. Tiens, ça fait un certain temps que je cherchais quelqu'un. » Toi, tu es en région liégeoise. Mireille et Cédric, eux, ils sont en région bruxelloise.
Oui. Après, pour moi, le tantra, c'est une inspiration, le Tao aussi, mais ce n'est pas ce qui définit ce que je propose aujourd'hui. Ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment les relations, c'est être en lien avec soi-même, avec les autres, pouvoir enlever peut-être aussi un couvercle sur la sexualité pour que les gens puissent être pleinement dans leur puissance, oser dire qui ils sont, de se montrer tels qu'ils sont, d'oser dire ce qu'ils ont envie de vivre, d'oser ce qu'ils ont envie de vivre dans leur sexualité. Et c'est là que je vois les personnes qui s'épanouissent comme des fleurs, qui s'ouvrent au soleil, qui sont connectées à leur puissance de vie. Je pourrais enlever le mot tantra, aucun souci pour moi, ça reste le domaine où j'ai envie de travailler, c'est l'intimité, la relation, la sexualité.
Participer au rayonnement à travers une communication plus bienveillante, avec beaucoup d'outils, j'imagine, liés à la communication non violente.
Ça fait partie évidemment de la base pour moi dans la relation, savoir dialoguer de façon non violente. Ça permet à l'autre, de l'autre côté, de ne pas se mettre en mode sécurité, défense.
Dès que tu as une parole que tu prends pour toi comme un reproche, une critique, tu refermes la barrière, tu redeviens un chevalier du Moyen-Âge qui met son armure, descend la herse du château fort. Et tu ne rentres plus dans mon donjon, tu n'envisages plus rien du tout.
C'est vraiment, je pense, une base importante qu'on utilise beaucoup dans notre espace et que je conseille à tout le monde de lire, de se renseigner, d'essayer de reformuler ses phrases, d'aller se connecter aux besoins.
Marshall Rosenberg à la base et en Belgique, en francophonie, Thomas d'Ansembourg. On va arriver progressivement déjà, peut-être que vous allez vous dire, oh, déjà, au final, dernière ligne droite de cet épisode. 97 par une petite musique. Quel est le genre musical qui te fait vibrer en ce moment ou qui te permet de prendre des moments pour toi?
Ce qui me porte le plus pour l'instant, c'est des musiques avec des mantras ou des bhajans, comme Ajit par exemple, qui est une artiste, je pense que c'est la fille de Snatam Kaur, si c'est bien sa mère, j'adore aussi. Mais Ajit, elle fait vraiment une musique magnifique, elle vient de temps en temps en Belgique pour chanter, c'est une musique du cœur, elle fait des cérémonies cacao en même temps qu'elle chante, et c'est waouh, ça me touche directement au plus profond.
Et une petite question bonus, j'ai pu poser depuis quelques épisodes. Quand tu parles à ton enfant intérieur, parce que j'imagine que ça arrive, qu'est-ce que tu lui dis? Ou si tu devais parler à un ancien toi d'il y a 15 ans, quelles sont les choses que tu as envie de lui dire, les succès, les fiertés que tu as envie de lui expliquer?
J'aurais envie de me dire de me faire confiance, de me rassurer que le chemin que je choisis est juste parfait pour qui je suis, puis de peut-être me mettre plus à l'écoute de mes besoins profonds et d'oser les dire aussi au risque de perdre les gens qui sont autour de moi, parce que ça leur paierait peut-être pas. Ça vaut la peine, du coup je serai pleinement qui je suis et ce que je suis aujourd'hui, et les personnes qui auraient envie d'être en lien avec moi seraient en lien avec moi pour la personne que je suis et pas pour celle que j'essaie de paraître.
Oser dire les choses pour être encore plus aligné avec soi. On va finir, comme bien souvent, avec des mots-clés. On a parlé de Tao, on a parlé de tantrisme, on a parlé de sensibilité, on a parlé d'entrepreneuriat, de câlin, de câlinothérapie, de beaucoup de sujets touchants en termes d'émotion et en termes d'aspect tactile aussi. C'était un épisode avec Nicolas Derue à Chauxfontaines, dans un petit écrin de verdure. On a été accompagné par le vent, par des petits trains, et surtout quasi en fil conducteur pendant tout l'épisode par des petits oiseaux. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés. Un grand merci à toi, Nico.
Merci beaucoup, Vincent, pour cette invitation et le temps que l'on a pris ensemble.
À bientôt.
À bientôt.